Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour et bienvenue sur Cube Radio. On est déjà le 10 août et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour les deux prochaines heures. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on recommence tranquillement à reparler politique, particulièrement les tractations entourant les élections provinciales qui arrivent à grands pas. Je rappelle qu'on ira collectivement voter, j'aimerais dire qu'on va tous voter le 3 octobre prochain. C'est donc le festival des annonces de candidatures. Hier encore, plusieurs partis politiques ont annoncé des candidats un peu partout au Québec. Premier ministre et chef de la CAQ, François Legault, a été particulièrement actif hier. Il a annoncé deux candidatures. Madame Aïtaïane, une gestionnaire cadre chez Ubisoft, qui va se présenter dans la circonscription de Laval-des-Rapides, un comté qui est actuellement détenu par le libéral Saul Polo. Est-ce qu'elle va réussir à gagner ce comté-là pour la CAQ? C'est à suivre. Il y a également Mme Christine Fréchette, qui est ancienne présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ancienne chef de cabinet adjointe de Jean-François Lisée, on se rappelle qu'elle avait claqué la porte du cabinet de Jean-François Lisée pour dénoncer la charte des valeurs de Bernard Drainville. Bernard Drainville, qu'elle va avoir comme collègue si elle est élue. Ça risque d'être particulier. Donc, Madame Fréchette, elle va être tenter de succéder à Daniel Mécan dans Sanguinée. Daniel Mécan, qui a été ministre de la Santé au début de la pandémie et ensuite ministre responsable de l'enseignement supérieur. Et François Legault, c'est aujourd'hui qu'il va confirmer la candidature de Martine Biron, l'ex-analyste politique à Radio-Canada, dans la circonscription des Chutes de la Chaudière. Le premier ministre a d'ailleurs profité hier du point de presse. Je ne sais pas s'il en a profité, mais ça a quand même été l'occasion de lui poser quelques questions sur la saga Marie-Ève Proulx, qu'il a d'ailleurs défendu. La députée Côte-du-Sud, qui est encore prise avec des allégations et des plaintes en harcèlement psychologique, s'est sortie hier dans le Journal de Montréal. Et le premier ministre, il dit croire sa députée, qui lui a parlé et que que ce qu'elle lui a raconté était crédible. Donc, le premier ministre, c'est devenu un juge. Il a déterminé que c'était correct, que c'était la version de Marie-Ève Proulx qu'il croyait et qu'elle avait toute sa confiance. Il dit aussi que c'est la parole de la victime alléguée contre celle de sa députée. On l'écoute. On va écouter d'abord Dominique Anglade, la chef de l'opposition officielle, qui dénonce le laxisme de François Legault à l'égard de Marie-Ève Proulx.
On envoie le message que ce n'est pas tolérance zéro. C'est pas la première fois que François Legault fait ça. Et encore une fois, c'est une question de valeur, c'est une question de conviction, de principe que tu défends. En 2022, toutes les questions par rapport au harcèlement, on devrait avoir une politique de zéro tolérance par rapport à ça.
D'abord, l'harcèlement psychologique, c'est tolérance zéro. Ça, soyons clairs. Quand je parle avec Marie-Ève Proulx, me dit que cette personne a pas de raison d'avoir porté plainte. Le dossier devant le tribunal, c'est la parole d'un contre la parole de l'autre. Moi, je fais confiance à Marie-Ève Proulx qui n'a pas eu de problème avec cette personne-là. Maintenant, on va attendre la décision du tribunal.
Je sais pas pour vous, mais moi, je suis mal à l'aise avec les deux extraits. Le premier, c'est Dominique Anglade qui dit que ça devrait être tolérance zéro pour les questions d'harcèlement psychologique. Puis je suis d'accord qu'on devrait juste pas accepter ça, mais rappelons que Madame Anglade avait mis dehors Marie Montpetit pour exactement les mêmes raisons, sans qu'il y ait de tribunal qui tranche en faveur ou en défaveur de Madame Montpetit. Elle aussi, elle s'est érigée en juge. Même chose que fait le premier ministre. Lui, il décide que c'est sa députée qu'il croit, pas la victime. Est-ce qu'il y a des principes de prudence qu'on devrait rappeler à nos politiciens pour leur dire que dans ces cas-ci, tant la victime que l'harceleur allégué, la victime alléguée, je devrais dire, devrait pouvoir s'expliquer avant que l'on détermine quelle version finalement on croit. Mais tout porte à croire que le premier ministre ne montrera pas la porte à Marie-Ève Proulx en vue des prochaines élections, elle qui a déjà été investie dans son rôle de candidate dans la circonscription de Côte-du-Sud. À la une, dans la presse ce matin, on apprend que devant le manque flagrant de soignants dans les communautés du Nord, les autorités locales ont demandé le renfort de rien de moins que l'armée. C'est à ce point critique. Et cette requête a été rejetée par Québec, qui mise plutôt sur l'envoi très rapide d'effectifs médicaux. On ne sait pas ce que ça veut dire, combien. Et avec, ils disent vouloir signer une entente avec la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide rapidement aux communautés du Nord. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on décide d'envoyer les effectifs rapidement et de conclure une entente avec la Croix-Rouge? Pourquoi on ne l'a pas fait avant que la situation devienne critique, qu'on soit à minuit moins une, que les communautés demandent l'armée? C'est-tu parce qu'on ne veut pas avoir à demander au fédéral quoi que ce soit, encore moins l'armée? On s'en rappelle, on a fait appel à eux durant la pandémie. La question se pose, particulièrement avant une campagne électorale. Toujours dans la presse ce matin, on apprend que la rentrée scolaire va se faire sans masque. Ça fait déjà plusieurs mois que la directive, disons l'obligation, a été levée. Aujourd'hui, ça dépend de chaque personne si elle décide de le porter ou pas. Le gouvernement a tout de même commandé 30 millions de masques et on peut pas leur reprocher d'être prudent cette fois-ci. On peut pas leur reprocher de prévenir plutôt que d'attendre les éclosions pour dire « OK, quoi faire ?» On sait qu'il va y avoir une 8e vague et bien que le port du masque n'est pas obligatoire, est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'attendre avant de passer les commandes plutôt que d'avoir un stock que l'on pourrait déployer rapidement? Moi, je pense que on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. C'est une bonne chose que le gouvernement fait et c'est bien ce que la pandémie nous aura appris. Dans le Journal de Montréal, ben, y a Annabelle Blais et Marie-Christine Trottier du bureau d'enquête qui se sont penchées sur la composition des candidatures de chacun des partis politiques. La question qu'elles se sont posées, c'est qui est réellement le parti champion des familles? On sait que c'est une étiquette que tout le monde veut s'accoler. Tout le monde dit, c'est nous le parti des familles, c'est nous le paradis des familles. Eh bien, à date, et c'est important de noter que c'est à date, parce qu'il manque plusieurs candidatures qui n'ont pas encore été nommées dans différents partis, eh bien, c'est la CAQ qui serait la championne de famille, tout simplement. Là, c'est le seul facteur qu'on détermine là-dedans, c'est le nombre de parents parmi les candidats. À date, on a 81% chez la CAQ, 65% chez le Parti conservateur, 76% chez les libéraux, 57% au PQ, et c'est Québec solidaire qui ferme la marche à 53%. Mais il faut noter, pour être juste, un fait important, la moyenne d'âge de Québec solidaire est beaucoup plus jeune que les autres partis. On parle d'un 39 ans de moyenne d'âge auprès des candidats, ce qui pourrait expliquer ces chiffres.